À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lagos e falamos das excepcionais condições que lá podemos encontrar. De ser melhor ficar em terceiro ou quarto do que em segundo. Do Barão Bic e do Marc Pajot. De chegar tarde, com menos orçamento. De ser difícil vender a America's Cup. De a Vendée Globe se ter tornado na regata. Da matemática. Do quão difícil é a solitaire do Figaro. De 15 barcos novos na Vendée Globe. De Ocean Race ser muito interessante. De apoio na popa. De um compromisso de arquitetura. Das três regatas que ninguém ganhou de seguida. Do Charal. De ser com Miramarte. Do Alex Thompson e da Sam Davies. De andar sempre às voltas com o troféu Júlio Verne. Ter de fazer menos de 12 dias ao Cabo da Boa Esperança. Da música e dos génios. O nosso convidado esta semana é o Frank Hamas. Esta semana temos o prazer de ter connosco o Frank Hamas, um viajador conhecido de todos. Frank, merci pour ton temps et bienvenue à Conversa do Cais, un genre de conversation au Quai. Avant tout, tu retournes à Lagos, sur le G732, après quelques années, tu as été ici déjà. Comment est-ce que tu trouves ce coin-là, Lagos, et toutes les choses ici?
Bah, la dernière fois que je suis venu, c'était effectivement pour le GC32 en 2019. Oui. Et c'est la dernière fois que j'ai fait du GC32,
d'ailleurs. Oui, ici c'était avec, championnat du monde.
Oui, avec Ben, avec l'Ineos déjà.
Ouais, il y avait Ben qui était contre nous. Il y avait plein de bon équipage et de bons bateaux.
Oui.
Naviguer ici, c'est bien parce qu'il y a vraiment toutes les conditions. Quand il y a le thermique qui vient de terre, c'est assez fort et c'est très shifty, donc tactiquement, il y a plein de choses à faire. C'est assez challenging aussi parce que le vent, il est rafaleux par moment. Donc, on a tous les ingrédients pour faire des belles régates. Et à terre, c'est très estival, très vacances.
Oui, très vacances.
Très chaud. Et bon, l'ambiance est très sympa pour le soir. Ouais.
Parlant un peu de ton histoire et ta vie, en regardant un peu ton histoire, que c'est pas une histoire terminée, on continue. Il y a quelque chose qui te manque, tu as une chose que tu as l'envie de faire encore, ou tu as rempli tout le carré?
Moi, j'ai déjà eu la chance de faire beaucoup de choses, donc
oui, c'est incroyable.
Ça, c'est génial. On est toujours frustré quand on va pas au bout des choses, c'est-à-dire quand on gagne pas ce qu'on entreprend. La Coupe América en 2017, c'est sûr qu'on est parti avec peu d'argent, peu de temps, et donc on a toujours envie de bien faire parce qu'on sent que on peut faire mieux. Mais c'est ce qui est motivant en fait, c'est que moi, j'ai rarement été d'accord pour refaire quelque chose où j'avais très bien fait.
Oui.
Donc je préfère revenir dans des choses où j'ai mal fait.
Oui.
Et parce qu'il y a à progresser, c'est là que c'est excitant.
C'est comme finir un chapitre.
Ouais, c'est ça. On a à l'époque des Orma 60 pieds. Oui, oui. Pendant 4 ans, on gagnait toutes les régates.
Tu as gagné tout.
Et
oui.
Quand on faisait deuxième, on était déçus.
Oui.
Et donc c'est pas très amusant en fait. Je préfère être 3 ou 4e et me dire je gagne des places jusqu'à la première. Après, ce qui est bien en voile, c'est qu'on peut tout faire et on peut faire de la course au large en solitaire ou de la course en équipage inshore. Oui. C'est vraiment deux disciplines différentes. L'olympisme aussi, c'est complètement différent. Et donc, on a l'impression qu'en une vie, on ne peut pas tout faire. Et moi, j'ai vraiment eu envie de toucher à tout et de repartir de zéro. Oui. En bas de l'échelle, c'était vraiment sympa.
En parlant de la Coupe d'Amérique, la France a une histoire incroyable avec la Coupe. Je crois que je me souviens de Marcel Bic, le Baron Bic, de France 3.
Les années 80.
Quelle folle, je me souviens, l'équipe VSD, tu sais, journaux, papier. C'est, toute la France a été derrière ce projet-là.
Ouais, et puis aussi à l'époque de Marc Pajot,
avec
la ville de Paris.
Oui, bien sûr.
En 1994. En fait, la France, quand il y a des beaux projets, le public français est très, et très derrière les.
Il soutient vraiment.
Les aventures de voile, que ce soit en course au large, beaucoup en course au large non, maintenant.
Course au large, c'est un autre département. Ouais.
Mais même la Coupe d'Amérique, bon, ils connaissent pas tout à fait ce que c'est, mais le bateau et la voile, ça leur parle au public français. Et voilà, tant mieux. On a vraiment un soutien du public. Qu'on fasse des choses pour nous seuls ou qu'on fasse des choses pour la nation.
Pour la nation.
comme la Coupe d'Amérique.
Et comment est-ce que tu vois les syndicats français qui arrivent ? Je sais qu'il est arrivé tard.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
en France.
Mais c'est incroyable. Parce que.
On arrive tard avec moins d'argent que les autres. Donc il faut être smart pour trouver des moyens pour compenser ça.
Oui.
Cette fois-ci, avec Cachalonge, il y a eu un très bon deal avec Team New Zealand pour récupérer le même
technique.
Dessin
oui.
que ce qu'ils vont avoir. Donc, et on sait que la Coupe d'Amérique, c'est une compétition technologique et mécanique avant tout. Et donc déjà de se dire, on va avoir en main le même bateau quelques mois auparavant que certainement le meilleur bateau de la flotte.
Oui.
Parce qu'on ne doute pas qu'ils vont être un des le meilleur.
Une fois de plus.
Encore une fois de plus, ils ont une vraie avance. Et donc ça nous enlève quasiment, je dirais, 70% du travail sur une Coupe d'Amérique. Le reste, c'est bien piloter le bateau, bien l'exploiter. Le développer, et c'est vrai que c'est là où l'idée c'est que quand on met à l'eau le bateau, oui, il sera comme celui des Néo-Zélandais, mais après il va y avoir 5 mois de développement, de,
par contre, des années
de data, etc. Et là-dessus, on n'a pas peut-être la capacité de progresser aussi vite que les Néo-Zélandais vont le faire
mais
avec
ils vont
leur
partager.
Expérience. Mais bon, c'est déjà une grande chance.
Ils vont partager. Quelle non. data avec vous
non, non, c'est interdit.
C'est interdit.
Donc, il n'y aura aucune partage de data. C'est juste le design. Voilà, et c'est pour ça que nous, on travaille exclusivement aujourd'hui sur les mesures que l'on peut faire à bord et augmenter notre performance dans l'utilisation du bateau, dans tout ce qui est software pour les réglages. Maintenant, ça se joue beaucoup comme la Formule 1. Ça se joue beaucoup dans la capacité de l'humain à contrôler tout ce qui se passe sur le bateau, donc l'hydrodynamique ou l'aérodynamique, et le contrôler dans le meilleur timing possible.
Vous êtes avant tout un mathématicien.
pour faire de la voile, vous êtes mathématicien.
Il aide beaucoup, non ?
Comment ?
La mathématique aide beaucoup.
Bah, c'est un sport scientifique, très mécanique, très technologique. Donc si on veut faire un retour et on veut avoir des échanges construits avec les ingénieurs, les architectes, les performeurs, on manipule des chiffres
c'est ça.
En permanence. Alors c'est vrai qu'il y a de la sensation qui doivent se traduire par des chiffres, et la sensation, elle est nécessaire. Et des fois, on a des sensations qui se traduisent pas par des chiffres, et d'ailleurs il faut comprendre pourquoi, mais il faut être capable de toujours formaliser les choses, être très objectif, parce que sur un équipage il peut y avoir 8 personnes et il y en a 5 qui sentent pas la même chose, donc il n'y a pas de vérité absolue dans les sensations. Normalement, il y a une vérité absolue dans les chiffres.
Oui, ça c'est vrai. Encore, et pour terminer la question de la Coupe d'Amérique, parce que au moins pour moi, quand je regarde la France, le niveau de technique des tripulants, de gens qui sont liés, au niveau de ressources humaines, la France, à mon avis, c'est très bien.
Oui, parce que la course au large.
Oui.
Parce que dans chaque équipe de course au large, c'est un bureau d'études,
c'est
des chantiers, c'est des navigants. Donc si on réunissait tout ça dans une équipe de France pour la Coupe d'Amérique, ça serait fantastique.
Ouais.
Le problème, c'est qu'il faut réunir 4 ou 5 budgets de course au large dans un seul budget pour la Coupe d'Amérique. Et ça, pour l'instant, c'est pas la chose facile à faire en France. C'est beaucoup plus facile d'aller vendre un Vendée Globe que d'aller vendre une Coupe d'Amérique.
C'est dans les racines, la Vendée Globe, c'est la France.
C'est devenu. C'est parce que le premier Vendée Globe, oui. Il n'y a que 30 ans. Avant, il n'y avait pas de Vendée Globe.
Oui, c'est ça.
Mais il y avait quand même des courses autour du monde. Il y avait Eric Tabarly qui faisait des Wilbrun. Il y avait des Sydney Hobart, des Fastnet. Ça, c'était existant. Et des Transats anglaises, la Route du Rhum. Il y a une belle histoire. Et après, il y a eu ce Vendée Globe, effectivement, qui a marqué beaucoup de gens. Et la génération actuelle de navigants est très marquée par ça. Moi, à la rigueur, quand j'ai commencé à faire la course au large, le Vendée Globe, il n'y en a eu que deux éditions. Et c'est pas comme maintenant où quand on demande à un jeune qu'est-ce que tu veux faire, c'est faire le Vendée Globe. Il y a un mauvais côté à ça, c'est que le reste qui est très...
J'ai un peu oublié.
Oui, c'est très franco-français. Ça reste franco-français, le Vendée Globe. Il reste beaucoup de choses autour à faire. Très intéressant, très riche. Voilà, il ne faut pas... pas se dire que la voile c'est que le Vendée Globe.
Non mais c'est vrai parce que j'ai créé l'année dernière avec Vendée Formation une régate sur Figaro 3 qu'ils ont sur la France en venant à Figaro de la Forge, on l'appelle la route de la sardine parce que Vendée et Figaro de la Forge ont beaucoup de sardines. On fait la route de la sardine, ça se passe chaque deux années, il aura le prochain. Et c'est ça, c'est incroyable. Je vois des jeunes qui sont déjà focus
Vendée Globe.
Vendée Globe.
Ouais. Et puis la course du Figaro, c'est génial.
C'est génial.
Pour apprendre aux jeunes, pour les confronter aux meilleurs. En plus, c'est un mélange entre des nouveaux et des anciens. Et quand fait le Figaro avec pas beaucoup d'argent, on sait qu'on a des références autour de soi qui sont les meilleurs au monde en course au large. Et c'est une super école. Et ça se voit d'ailleurs maintenant dans l'Ocean Race, tout ce qui est course au large, les Français maintenant sont bien représentés et sont bien, ils ont une belle image.
Tu as parlé du Figaro et c'est vrai parce que quand on voit la solitaire du Figaro, on voit des gens à ton niveau qui parfois retournent à faire ça. C'est vraiment, à mon avis, c'est une course exceptionnelle. Pour que tu aies des gens comme toi qui parfois arrivent là-bas, retournent.
Parce que c'est difficile.
C'est
Figaro,
vraiment
difficile. C'est vraiment difficile. On est à Armégal, on a les mêmes bateaux. Ouais. Le plan d'eau, il est très sympa. Ouais. Dans le golfe de Gascogne, la Manche, il y a du courant, du vent. Il faut faire avancer. Il y a tous les ingrédients de la course au large qu'il faut assimiler seul. C'est, je pense, la meilleure école au monde.
De
course au large, c'est faire la solitaire du Figaro. Et tant que tu n'as pas fait quelques années de solitaire du Figaro, tu n'as pas le droit de faire autre chose. En France, c'est un peu ça. Il faut avoir fait un résultat dans la solitaire du Figaro. Et
c'est qu'on fait le bac
c'est comme,
avant d'aller à l'université.
C'est le bac.
mais l'intéressant que j'ai trouvé en parlant avec les gens de Vendée Formation, et qu'aujourd'hui, il y a une demande énorme des gens de tout le monde qui sonne à la porte de Vendée Formation et peut-être
ou
d'autres
encore. Pour la forêt,
etc.
Oui, des étrangers.
Oui, qui sonnent à la porte, ils veulent aller là-bas, essayer. Ouais.
Ils savent que c'est là où ils vont apprendre.
Oui.
Il n'y a pas mieux parce qu'on touche à tout. On touche à la technique, on touche
au budget,
réglage, on touche à la régate, on touche à la météo, on touche à la technique. On touche à tout. Quand on fait l'école en dehors de ça, dans les pays étrangers, c'est plus un échange dans des compétitions en équipage où chacun apprend un petit peu en fonction de l'autre, mais c'est beaucoup plus cloisonné dans les compétences qu'on demande en équipage. Tandis que quand on fait du solitaire, on est obligé d'avoir une très bonne vue d'ensemble de comment on va gagner une régate. Et c'est très très vaste, ça va de la préparation du bateau à la façon de sentir la barre.
et maintenant si on fait un coup d'œil qui sont les IMOCA, tu peux gagner une autre fois tu as gagné la Volvo Ocean Race avec un 70 et maintenant tu as fait
gagner. Ouais, c'est l'IMOCA, c'est la suite du Figaro. En France, c'est vraiment...
C'est
parce que c'est le Vendée Globe. Et la classe IMOCA, c'est la classe qui, au monde, s'est développée le plus.
Oui.
Avec la prochaine fois, il y aura 15 bateaux neufs, quand même. C'est assez incroyable.
C'est
des bateaux de 20 mètres, qui, 15 bateaux de 20 mètres.
Nouvelle génération.
Haute technologie et tout. Ça s'est jamais vu, même à l'époque des Volvo Chardonnay, il y a 20 ans, il n'y a jamais eu autant de bateaux neufs. Donc ça, c'est une chance. Et puis le fait qu'ils se sont mis d'accord avec Ocean Race pour que ça soit le même bateau. C'est un bateau maintenant, on peut faire tout.
Intéressant, c'est d'accord.
Ah bah pour les propriétaires du Moka, c'est très très intéressant. Oui. Pour les navigants aussi, c'est bien de se dire, j'ai pas besoin de faire un bateau spécifiquement pour le Ocean Race, un bateau. Donc pour un Français qui habituellement va faire le Vendée Globe et puis vendre pour le Vendée Globe, se dire il y a une autre épreuve très internationale avec des étapes qui peut intéresser mon sponsor et qui moi en même temps m'intéresse parce que sportivement de faire des courses en équipage c'est aussi très motivant, une autre valeur, beaucoup plus serrée. Je pense que pour préparer un Vendée Globe il n'y a pas mieux que faire l'Ocean Race en fait. Parce que naviguer bord à bord en équipage, on connaît parfaitement son bateau.
On voit les gens faire des match race.
Exactement, non, mais il n'y a pas mieux des line-up pendant 9 mois autour du monde.
Oui,
c'est l'idéal.
On a trouvé ces dernières étapes, on a vu des vitesses absolument incroyables. Et on sait que l'Imoca, c'est une box rule, qui arrive au proche d'une box rule. C'est une box rule. Juste. Avec ta connaissance, jusqu'où on peut aller avec l'Imoca. C'est incroyable, parce que c'est un bateau que on voit pas où est-ce qu'on va finir le développement de ce bateau. C'est incroyable.
Oui, je pense que les foils en fait, qui sont apparus en 2014, ça a ouvert un champ d'expérimentation énorme. À partir du moment où on commence à faire à moitié voler les bateaux, on ne sait pas où on s'arrête. Avant, c'était la longueur de coque qui a un peu bloqué le système. À partir du moment où on vole, et on le voit sur des inshore et sur la Coupe d'Amérique, il n'y a plus vraiment de limite. Et là, ce qui est très challenging en fait sur les IMOCA, c'est qu'il manque pour voler beaucoup plus facilement, et donc on essaye de faire un bateau qui vole mais pas tout à fait, et qui quand il vole pas il puisse encore aller vite, et donc ça sera pas un bateau qui sera le meilleur tout le temps, mais il faut qu'il soit bon pour la course qu'on veut gagner. Donc il peut y avoir des bateaux qui vont gagner toutes les transats et les courses avant le Vendée Globe, mais qui au Vendée Globe seront pas forcément le meilleur bateau. C'est ça qui est un peu difficile. Mais c'est un challenge pour les designers de mettre le curseur au bon endroit.
Mais quand nous trouvons un sponsor pour un projet, un partenaire, je crois que chez vous, ce n'est pas un sponsor, c'est un partenariat. C'est plus large. C'est beaucoup plus large. L'objectif, c'est le bateau pour la Vendée ou avec la route au Rhum et toutes ces choses, c'est un...
On dit toujours que c'est un bateau pour le Vendée, sauf que quand on ne gagne pas la route du Rhum, la Jacques Vabre, le partenaire, il n'est pas content.
Donc, c'est complexe.
C'est assez complexe. Ouais. Il faut avoir une très bonne confiance.
C'est comme une triple couronne, au final. L'objectif, c'est gagner les trois.
Oui, évidemment, ça serait l'idéal, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a gagné les trois. Pas de suite, quoi.
Oui, c'est de suite.
Donc, c'est pas. On essaye tout, ça, c'est notre idéal, mais pas simple.
Toi, avec Jérémy, je crois, tu es sur Charal. Et Charal a apporté toujours des bateaux, comment est-ce qu'on peut dire,
innovants,
radical. C'est la génétique du projet de Charal et surtout des gens qui sont liés à ce projet-là.
Ils ont fait deux bateaux neufs. Ils ont fait Charal 1 pour 2020 et là il y a Charal 2. Ils n'ont pas les mêmes architectes, les deux bateaux d'ailleurs, mais.
Ce sont deux développements.
Ouais, c'est assez différent puisque il y en a un, c'était Vincent Loriot-Prévost, l'autre c'est Sam Anuard, donc ils n'ont même pas la même vision. Quand on voit les deux bateaux, il n'y en a pas un qui est issu de l'autre, loin de là. Après, dans les détails, évidemment, ils utilisent l'expérience de l'un ou l'autre. Mais oui, c'est bien, c'est que il n'y a pas de limite, il n'y a pas trop de copiage sur ce qui se fait. L'important, c'est d'aller au fond des choses que l'on pense bonnes, et pas de se dire qu'on fait comme ça parce que l'autre fait comme ça. Il faut croire en des choses que l'on a étudiées, et si on a confiance dans la façon dont on étudie les choses, il faut y aller par nos propres réflexions.
Est-ce que tu crois?
Est-ce qu'on croit, non, croit, voilà.
Ta connaissance est beaucoup plus quoi. C'est la mathématique.
Oui, c'est ça. On a des outils maintenant de conception. Bon, c'est comme la Coupe d'Amérique, hein, dans le fond. Chacun croit et va au bout de ses démarches.
Je suis absolument fanat de la Vendée. Pour moi, c'est une chose. C'est presque une pérégrination religieuse. Vous êtes sur le bateau, mais nous qui sommes en terre, on voit pendant la nuit arriver des camions, des gens qui sont sur ce ponton, ce mouille, sur le chenal.
Ce quai.
C'est comme une chose religieuse. Et après, non, c'est un pèlerinage. La sortie,
le pèlerinage.
Parmi les bateaux du support, après tout. Et les gens ont une vénération presque religieuse. Quand on voit les gens sortir, on a le japonais, quand il sort avec son robe samouraï. Et pourquoi le monde n'a pas. Tout le monde. Pourquoi, si tu parles en australien, par Sydney au bar, pourquoi la Vendée Globe reste tellement française et pas aussi internationale? Je peux poser la question d'autre façon. Je crois quelques personnes qui, une fois dans la vie, et j'ai dit à tout le monde, il faut une fois dans la vie voir la sortie de la Vendée. Après ça, la conception qu'on a de la voile comme sport change complètement.
Oui, le Vendée Globe est encore perçu comme une grande aventure humaine, peut-être avant d'être une régate. Oui. Et cette aventure, parce que tout le monde se dit partir seul autour du monde, c'est quelque chose de très difficile, ce qui est vrai. Mais c'est aussi une activité différente de faire de la voile en équipage. Et je pense que en dehors de la France et les anglo-saxons, la course en solitaire, c'est marginal pour eux. Faire de la voile, c'est pas faire de la voile tout seul, c'est faire de la voile en équipage. La culture est comme ça. Le plaisir qu'ils ont, c'est faire de l'équipage. Ils ont l'impression, et c'est en partie vrai, que c'est un peu masochiste d'aller faire de la course en solitaire. Donc ils s'y intéressent pas pour ça, parce qu'ils se disent moi j'ai pas envie de le faire, ça sera pas à mon plaisir. Donc je pense que chacun a le droit de faire son plaisir où il a envie, et c'est bien qu'il y ait tout, hein. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que le public est forcément attaché parce qu'ils ont l'impression que c'est des gens qui vont sur Mars.
Oui, c'est ça.
Quand ils sortent, ils vont dans une planète que personne ne connaît. Et ils vont ramener des images, des histoires, et ça fait rêver les gens. Mais
j'ai passé toute ma jeunesse. Mon père était chef d'escale d'Air France, et à cause de ça, les journaux que j'ai quand j'étais gamin ne sont pas les journaux sportifs portugais, c'est Oncle le Foot. Je suis avec le VST, l'équipe et tout ça. Dans mon imaginaire de gamin, j'ai les héros de Vendée Globe et Thierry Sabine, le Dakar original, a été la gloire.
Ouais, mais c'est effectivement le même esprit. C'est un alpiniste qui va faire l'Everest.
L'Everest, c'est.
Voilà, ça fait aussi.
C'est le défi au moins.
C'est le défi. Il n'y a pas forcément du plaisir à le faire. Oui, il y a du plaisir à réussir. Oui. Mais c'est avant tout difficile. Et je pense que les gens sont attachés au fait que des humains soient capables de s'exposer, exposer sa vie, se mettre en danger pour réussir des choses qui sont hors du commun. Et c'est les dernières aventures humaines. Avant, il y avait Magellan qui faisait le tour du monde, mais ça n'existe plus.
Oui,
et les seuls qui explorent encore des trucs, c'est des astronautes, on peut dire. Mais ça met du temps pour aller dans d'autres planètes.
Oui, c'est vrai.
Un peu trop. Mais c'est le même esprit.
Tu crois que dans la globalisation du sport en solitaire français, Alex Thompson a un rôle très intéressant.
C'est très important qu'il y ait des hors-français qui viennent, qui viennent se frotter aux Français et qui exportent l'image du Vendée Globe, de la course
solitaire, surtout.
La course en solitaire. Et oui, c'est indispensable. Et il y a eu Hélène MacArthur aussi.
Mais
Alex Thompson, c'est un très très bon communicant.
Oui, c'est un communicant extraordinaire.
Il pousse aussi beaucoup les bateaux, donc ça a une image un peu tête brûlée.
Oui.
Il a créé de très très belles images parce qu'il aime faire ça, il sait faire ça. Donc c'est bien, il en faut. Qui on peut citer maintenant comme Alex Thompson, malheureusement, la prochaine fois, il n'y en aura pas vraiment. Bon, il y a des Sam Davis, etc., qui sont devenus français.
Sam est française aujourd'hui. On s'oublie, on sait qu'elle est anglaise, mais...
Oui, en fait, elle vient de Port-la-Forêt.
Oui, elle perd même l'accent anglais. Non, parce qu'en réalité, Sam est né dans la mer. Dans un bateau de ses parents. En réalité, les fils du Neptune au-delà.
Mais c'est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un Australien. Je ne sais pas s'il y a un Australien, un Néo-Zélandais, qui sont deux nations incroyables en voile. Ce serait bien qu'il y ait des gens comme ça
qui s'occupent
de qu'ils y aillent avec un bon bateau, qu'ils aillent de façon performante. Oui. Les étrangers aujourd'hui, à part Alex Thompson,
tu crois que Charles...
ils vont pas pour gagner.
Non, ils vont pour finir.
Ils vont pour finir. Donc, le japonais, c'est très bien, mais il va pour finir. Oui. Il y a aussi un chinois.
Chinois, oui, qui vient.
Et avec une nation derrière incroyable. Lui, il peut devenir un héros
en
Chine aussi.
C'est vrai.
Et ça, c'est bien aussi.
Tu crois que, et tu le connais bien, Charlie Enright, un jour, il va essayer de faire solitaire
Je sais pas. Pareil, je pense que c'est pas son goût, quoi. Je pense pas que ça soit son goût, par contre. C'est pas. Je sais pas comme il y a de personnes qui se font plaisir à faire Vendée Globe. Par contre, se faire plaisir à réussir Vendée Globe, c'est, donc il peut y aller dans cet esprit-là, en disant je vais me faire, je vais m'éclater pendant 80 jours, parce que je pense qu'il y a moyen de se faire mal et de trouver le temps long. Mais
quel est avec ces nouveaux outils bateaux, qu'est-ce que les temps de référence que tu crois qu'on peut arriver dans la prochaine Vendée?
Le record, c'est quoi? C'est 74 jours?
Oui, je crois. En tout cas,
Je veux dire, une bonne barrière à franchir, c'est 70 jours.
70.
Et c'est réalisable, ouais. Après, il faut avoir la météo, mais quand on voit les vitesses sur les allures un peu de reaching, là, quand on fait des entraînements avec Charal, si on n'est pas au-dessus de 25 nœuds, on n'a pas fait une journée très bien. Donc, il faut tout de suite se mettre au-dessus de 25 nœuds pour se dire pour pouvoir gagner des régates. Quoi.
Avec Charal, l'équipe a été à Cascais, à Saint-Élie. Comment a été c'est bien passé là-bas?
Déjà, oui, c'est très bien. Et puis, quand je voyais la météo qu'il y avait à Lorient et dans le golfe de Gascogne, heureusement qu'on était à Cascais, parce que c'est le seul endroit où il y avait 25 nœuds de vent, de la mer. C'est ça qu'on va chercher. Et Cascais a toujours été des camps d'entraînement plutôt efficaces.
Et pour le dernier chapitre, multicoque.
Grand chapitre.
Non, ça c'est. Oui, peut-être. On a la Vendée Globe, mais on a encore une chose qui s'appelle Jules Verne.
Jules Verne ou Route du Rhum, il ne faut pas oublier. Route du Rhum, c'est aussi quelque chose d'énorme en France.
Énorme, oui.
Il y a même plus de public à la Route du Rhum, je crois,
fois. C'est... Oui, mais je dis comme
défi. La Route du Rhum, c'est le...
Oui, c'est trop français. La Jules Verne, il a toujours... c'est le tour du monde le plus vite.
C'est le record.
C'est le record.
Oui, on ne peut pas faire un meilleur record au monde.
C'est impossible à la fois.
Donc, ouais, c'est
incroyable l'évolution.
C'est magique, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vendée Globe, il y a des bateaux qui sont dans une box school, etc. Il faut jouer avec. Jules Verne, c'est on part avec qui on veut, on part avec quel bateau on veut, et on part quand on veut. Et par contre, il faut partir de Brest.
Oui,
bon, à part ça.
Oui, là, il a une ligne qu'on doit pas.
Mais à part ça, on fait ce qu'on veut. Donc, en gros, c'est l'image du développement technologique et du savoir-faire de l'humain. Technique maritime, mais en fait, le savoir-faire maritime découle aussi du savoir-faire scientifique et technologique et météo.
On utilise des ligues liées à l'aéronautique et à l'aérospatiale.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une plateforme qui montre ce que. Le développement de l'humanité au point de vue technologique, parce qu'il n'y a aucune limite.
Tu as battu une fois. Et même toi, tu as.
Et essayé d'autres fois.
Oui. C'est une chose qui, pour toi, c'est toujours. C'est comme la carotte qui est devant le nez.
Oui, bon, quand on l'a fait une fois, c'est sûr qu'un record, on peut toujours battre plus. Mais je ne pense pas que ça soit mon absolu objectif parce qu'il y a une part. Ce qui me gêne dans les records, c'est qu'il y a une part de chance un peu grande.
Oui, oui.
Et c'est pas que
la mathématique.
Tandis que quand on part sur une même ligne avec les mêmes ingrédients météo que les autres,
c'est une vraie course.
Oui. Et on a les mêmes cartes en main.
Oui.
Quand on part un record, on n'a pas les mêmes cartes en main. Déjà, on n'a pas le même bateau. Alors là, a priori, on est toujours favorisé quand on part après parce que le bateau est au moins aussi bon. Par contre, la météo, c'est quand même une part énorme des records. Et donc là, il y a une part de chance, plus tout ce qui se passe en mer. Est-ce qu'on rencontre des trucs? Est-ce qu'on tape des trucs?
Quand on voit aujourd'hui les gens sur le Jules Verne, on voit les temps de stand-by, on est là, papa. Si je peux demander, quel est le... Où est le moment de go non go? C'est aller jusqu'au Cap?
Ouais, là, c'était vraiment.
C'est la liaison au Cap.
On voulait être à moins de 12 jours sur au Cap de Bonne-Espérance. Ouais. C'est la seule partie qu'on peut contrôler.
Pour qu'après, c'est.
Et après, c'est parti. Alors peut-être c'est trop ambitieux, c'est pour ça que ça fait quelques années que Spindrift ne part pas, que nous, on n'est pas parti un an aussi. Parce qu'il se passe des choses après. Mais en fait, le record est tellement difficile, on se dit.
Oui, c'est tellement complexe. C'est pas assez...
Ouais, et puis le record est élevé. Et on se dit, il faut absolument qu'on ait une journée d'avance par rapport au record à Bonne-Espérance. Parce qu'après, ils ont eu un truc magique que je pense personne n'aura dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Et notamment l'an dernier, dans le Pacifique, il y avait beaucoup d'icebergs qui étaient très hauts. On ne pouvait même pas faire la route de Hideck.
Oui.
Et la route du Hideck, elle faisait 800 milles de moins parce qu'ils sont partis très très sud. Donc on est presque sûr de perdre un jour dans le Pacifique. On est dans l'Atlantique Nord au retour. Ils ont fait un truc aussi magique qu'il y a deux jours perdus sûr et un troisième jour dans l'Indien, on va dire, où c'est des trucs magiques.
Oui.
Donc il faut récupérer trois jours. On peut récupérer en vitesse, on peut récupérer un jour. Dans la descente, on peut récupérer un jour. En vitesse pure, quoi, on va dire.
Oui.
Parce qu'on a un meilleur bateau. Et ensuite, dans l'Atlantique Sud, en remontée, pourquoi pas.
Oui.
Donc, mais il faut pas. Voilà, il faut que ces trois jours, il faut les prendre, quoi.
Oui.
Et un tiers de ce gain, c'est cette descente. Il faut être sûr d'avoir un jour d'avance à Bonne-Espérance. C'est un peu ça, et on n'a pas trouvé cette certitude.
Parce qu'une des choses plus difficile, je crois, la gestion quand vous êtes, quand quelqu'un est sur là-bas, quand on monte, on passe le Cape Horn, on démarre à monter et on réalise qu'on ne va pas arriver autant. Cette gestion doit être la folie parce que là-bas il n'y a pas de seconde, il n'est pas fait le deuxième temps ou le troisième temps. C'est pas l'histoire.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est comme la Coupe d'Amérique, il n'y a pas de seconde.
Oui, il n'y a pas de seconde. C'est vrai.
Mais c'est ça aussi qui est magique. C'est qu'on comprend la valeur d'être premier.
Mais pour finir, Franck, la musique continue à jouer une partie importante dans ta vie.
Bah, j'ai pas de piano chez moi.
Non.
Mais j'aimerais bien en avoir.
Tu n'as pas d'espace ou sur... pas de temps?
Si, j'ai de l'espace, mais j'ai pas de temps. Ouais. De j'ai temps. Pas de temps et c'est difficile de tout faire. Mais voilà, je suis tellement rarement chez moi que.
Oui. si, quel est ton compositeur préféré la musique classique?
C'est difficile à dire. Après, il y avait des.
Ça dépend.
Il y avait des morceaux très faciles à jouer quand j'étais petit et qui à l'oreille on avait l'impression que c'était un truc. Oui.
un truc mais tu as un compositeur préféré dans ton Spotify ou tu aimes tellement la musique.
Non, c'est très banal ou très connu. Ce qu'on apprend dans le conservatoire, c'est Mozart, Chopin, Beethoven, Bach.
Oui.
Voilà, mais les quatre sont différents, mais les quatre sont vachement.
Il a sympa. Quelqu'un d'eux que tu touches plus d'accord ou tu le sens ou que tu as besoin de.
Oh, c'est tous des génies, il y en a un qui est peut-être plus génie que l'autre, c'est Mozart.
Mais c'est ça.
C'est peut-être Mozart.
Ils sont tous génies.
Sa vie a été. Il est mort jeune, mais il a fait des trucs incroyables.
si toi, deux filles, c'est vrai.
Ouais.
Oui. Si une de tes filles, tu dis qu'elle va faire la voile océanique, qu'est-ce qu'il va dire? Non?
Oh. Oh non, je dis pas non. Oh. Alors là, moi, c'est vraiment une chance d'avoir une passion. Oui. Moi, j'ai une passion.
Tout est passionné.
Oui, et puis si mes filles sont passionnées par quelque chose,
quel qu'il soit, allez.
Bah, c'est génial. Il faut y aller à fond, que ce soit du cheval, que ce soit de la montagne.
Qu'est-ce que
ce
soit.
Il faut y aller à fond, quoi. Et le pire, c'est de ne pas avoir passion.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Quand tu parles des choses, tu parles toujours à sourire. Quand tu parles de voile, tu parles toujours à sourire.
Oui, et puis même, je pourrais aller en montagne, c'est aussi une passion. Oui. Quand j'y vais, c'est génial. Je fais du vélo aussi. Voilà, c'est toujours...
Les grands espaces, le grand large, comme on dit. Ouais. Franck, énormément merci pour ton temps. C'était un plaisir énorme et à bientôt.
À bientôt.
Quel part au monde, merci.
E assim terminamos mais uma conversa no nosso CAIS. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.